Écoutez le monde changer.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Pendant une heure, nous allons vous informer et partager des conseils pour améliorer votre bien-être. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la beauté naturelle et la beauté qu'on sublime avec la chirurgie esthétique. Quelles sont les opérations les plus fréquentes? Y a-t-il des risques? Est-il plus sage d'investir dans une intervention ou tout simplement de s'accepter tel qu'on est? Notre invité, le professeur Jean-Paul Méningo, chirurgien plastique qui connaît parfaitement toutes ces questions, va nous aider à y répondre. À mes côtés, et également, comme tous les jours en studio, on retrouve le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez de sexologie un peu avant 16h et puis vous avez aussi des conseils pratiques à nous proposer pour la santé du quotidien. Quel est le programme aujourd'hui?
Eh bien, côté sexo, nous allons découvrir des orgasmes étranges. Et
d'accord,
dans les petits bobos de l'été, oui, nous évoquerons la gastro, car lui aussi, ça arrive en été.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus dans votre émission santé, Sans Rendez-vous.
Anne Le Gall vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et pour démarrer, on commence par évoquer les petits bobos du quotidien. Alors, pas toujours graves, mais face auxquels on est parfois un peu démunis. Aujourd'hui, Damien Mascret, vous nous parlez des gastro-entérites, car effectivement, il y en a aussi l'été. Et on a justement une question de Marvin.
Moi, je me suis toujours demandé si on pouvait attraper la gastro l'été. Est-ce que on l'attrape à cause de la chaleur ou d'autres choses? Je ne sais pas.
Est-ce dû à la chaleur?
En partie, oui. Il fait chaud, on laisse les aliments à la chaleur trop longtemps, on fait des barbecues, mais la viande n'est pas toujours cuite à cœur.
On pique-nique au frigo.
On pique-nique, il fait chaud et on récupère les restes qui seront parfois restés longtemps à température ambiante. Mm-hmm. Tout ça, évidemment, ça favorise les intoxications alimentaires. Mais en été, évidemment, il y a aussi la tourista. Hein. C'est la gastro du voyageur qui peut gâcher votre séjour quand vous voyagez dans certains pays. Et d'ailleurs, même sans voyager, hein, à partir du moment où vous prenez de l'eau ou certains aliments qui ont des agents infectieux comme des virus, des bactéries, des parasites, tout ça, ça peut déclencher des gastro-entérites infectieuses. Bref, l'été, soyez prudent si vous voulez éviter la gastro.
Voilà, et quels sont les symptômes? Le principal symptôme, c'est quoi? C'est la diarrhée?
Bah oui, on va la diarrhée, exactement. Mmh. Alors, ça commence en général assez brutalement. Votre intestin gargouille, vous avez des nausées, parfois même vous vomissez d'ailleurs. Vous pouvez avoir des gaz, des crampes abdominales, parce que les muscles intestinaux se contractent pour essayer d'éliminer au maximum et le plus rapidement possible, évidemment, ce qu'il contient en virus, en bactéries ou en parasites. C'est pour se débarrasser de tout ça que votre corps déclenche la diarrhée. Une diarrhée d'ailleurs qui peut être parfois sanglante, hein, parce que la muqueuse, c'est-à-dire la paroi de l'intestin, est enflammée, irritée.
Alors, et c'est inquiétant ça, quand c'est un peu sanglant?
C'est inquiétant parce que oui, ça, surtout si ça dure, ça peut être effectivement certains parasites ou certaines bactéries qui vont nécessiter des traitements antibiotiques par exemple. Donc c'est vrai qu'il va falloir consulter. Même chose d'ailleurs si vous avez de la fièvre. Mais c'est surtout embêtant parce que le problème, c'est que quand le transit est accéléré, eh bien, votre corps n'a pas le temps d'extraire l'eau qui se trouve dans le bol, qui se trouve dans les intestins. Vous évacuez l'eau et vous risquez de vous déshydrater.
Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau quand il y a une gastro.
Exactement. Alors, si possible, l'idéal, c'est quand même une solution de réhydratation orale, une SRO, comme on l'appelle. C'est vendu en pharmacie,
c'est ces petits sachets de poudre.
Exactement. Avec les micros, ça contient les micronutriments. On reconstitue ça, bien sûr, ensuite. Mais parfois, eh bien, on est obligé d'avoir recours à des perfusions. Quand vous vomissez, par exemple, l'eau que vous ingérez à chaque fois, ou alors si la déshydratation est trop importante, vous êtes fatigué, vous avez les yeux cernés, ou pire, vous avez le signe du pli, là, c'est très grave.
C'est quoi le signe du pli? Vous nous rappelez?
Alors oui, le signe du pli, c'est quand vous pincez la peau au niveau du thorax, au-dessus de la poitrine, vous faites laisser, allez-y, vous pincez la peau et vous verrez que dès que vous relâchez, la peau reprend immédiatement sa position initiale. Par contre, quand on est sérieusement déshydraté, si on pince la peau, elle va rester comme ça, relevée pendant 3 ou 4 secondes.
On
ça, c'est vraiment mauvais signe.
Sur le dos de la main aussi?
On peut le faire, mais c'est un petit peu plus facile sur le thorax.
Très bien. Alors le traitement de la gastro, c'est uniquement de boire de l'eau?
Alors bon, c'est le plus important, c'est vrai, ces fameux sachets qu'on reconstitue. Alors quand on n'a pas ces sachets de SRO, c'est vrai que même si c'est controversé, on recommande parfois du Coca-Cola pour se réhydrater. Alors attention.
Alors mythe ou réalité?
Voilà, il faut savoir comment faire. D'abord, on sait que c'est très sucré, c'est trop sucré, évidemment, c'est pour ça que c'est pas l'idéal. L'avantage, c'est que vous en trouvez partout et vous êtes sûr que la boisson est stérile. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Mais c'est vrai qu'idéalement, on va faire un petit mélange. Alors pas du Coca, Coca, il ne faut pas que ce soit du Coca Light, sinon il n'y a pas de sucre. Hein. Il faut quand même qu'il y ait un peu de sucre
donc
dans la boisson
Coca
pour mieux garder
original.
L'eau. Voilà, Coca original, comme vous dites. Et décaféiné hein, chez l'enfant quand même, ça faut aussi y penser. Alors vous mélangez moitié Coca, moitié eau, et puis vous allez rajouter, parce qu'il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas dans le Coca, vous allez rajouter un petit peu de sel, une cuillère à café, et puis vous allez rajouter...
C'est bon
bah, si, ça sera bon, vous verrez.
D'accord.
J'ai testé. Vous pouvez rajouter aussi une cuillère à café de jus de citron, ça c'est pour le potassium.
Okay.
Alors, l'OMS a une recette qui est plus simple, hein, c'est 1 litre d'eau en bouteille, vous ajoutez 6 cuillères à café de sucre, une cuillère à café de sel, et vous avez votre solution de réhydratation orale. Ça doit être consommé, attention, dans les 12 heures si vous le laissez à température ambiante. Vous pouvez aller jusqu'à 24 heures si c'est au frigo. Après, s'il en reste, et bien vous le jetez.
Et est-ce qu'on peut tout simplement éviter la gastro ? Bon, en se lavant les mains déjà, peut-être ?
Alors, en tout cas, on peut réduire les risques. Hein. C'est vrai que ne pas boire d'eau quand on n'est pas sûr de sa qualité, acheter des bouteilles d'eau fermée dans certains pays, ça, c'est l'idéal. Méfiez-vous des glaçons à piège classique, hein, parce que si l'eau qui a servi à les faire n'est pas correcte microbiologiquement, et ben voilà, c'est raté. La chaleur est redoutable, on l'a dit. Mais le principal mode de transmission, quand même, c'est les mains. Donc, il va falloir, évidemment, se laver souvent les mains, en particulier, bien sûr, si vous avez fréquenté les toilettes publiques, hein, a fortiori. N'oubliez pas de garder un masque en cette période de coronavirus. On sait qu'il peut y avoir des vaporisations si quelqu'un avant vous est passé et été infecté. Et puis enfin, on rabat toujours le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Sinon, on vaporise dans l'air les germes fécaux. Donc, il faut penser à le faire.
Donc, on les inspire ensuite.
Exactement.
D'accord.
Donc, bonne habitude à prendre.
Merci beaucoup, Damien Mascret.
Europe 1.
À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré à la chirurgie esthétique. Beaucoup d'interventions sont possibles aujourd'hui. Quelles sont les plus fréquentes, les plus récentes ? La chirurgie permet-elle forcément d'être mieux dans sa peau ou véhicule-t-elle beaucoup de mirages ? On en parle avec notre invité dans un instant.
Anne Le Gall sur Europe 1. Attention, la nouvelle exposition du Musée de la vie romantique risque de faire battre votre cœur. Découvrez 40 œuvres de 30 artistes contemporains autour de la représentation du cœur. Cœur, du romantisme dans l'art contemporain, jusqu'au 13 septembre 2020 au Musée de la vie romantique, Paris 9e. Plus d'infos sur museevieromantique.paris.fr, en partenariat avec Europe 1.
Ah, on a bien fait d'être optimiste.
Comme chez Fiat.
Pour ça, on devrait pouvoir partir sans payer.
Justement, chez Fiat, tu prends ta voiture maintenant et tu payes en 2021.
Ah ouais, mais l'optimisme, ce serait aussi des remises valables pour tous.
Chez Fiat, elles sont sans condition et avec un crédit super intéressant.
Génial. Et pour éviter les mauvaises surprises ?
Leur garantie 10 ans, rassuré ?
Optimiste.
Fiat vous accompagne avec le contrat optimisme 5 mesures jamais vues. Car chez Fiat, l'optimisme est toujours la solution. Dans le réseau participant jusqu'au 31 juillet, payant en 2021 sous condition de location longue durée si acceptation par Lysis France, détails sur fiat.fr.
Fiat.
Il y a 20 ans, Nati a vécu une histoire d'amour qui a failli détruire sa vie. Quand d'étranges coïncidences commencent à s'enchaîner, elle s'interroge. Et si quelqu'un essayait de lui rappeler son passé ? Embarquée pour un suspense sans escale, avec le roman de Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort, aux éditions Pocket.
Cet été, pour deux livres Pocket, achetez un cadeau offert. Voir modalité en magasin.
Coton-tige les bains.
La roche mégot.
Solvant sur champ.
Oh, gobelet la prairie.
Godasse sur mer.
Pour que ces lieux n'existent jamais. Les 25, 26 et 27 septembre 2020, participez aux journées Nettoyons la nature, la grande opération de collecte de déchets près de chez vous et partout en France. Inscrivez-vous vite sur nettoyonslanature.leclerc.
Bidon la forêt.
Canette plage.
Leclerc.
Inscription dans la limite des stocks disponibles. Modalité sur nettoyonslanature.leclerc.
Conforama, le confort pour tous.
Oula, vous n'avez pas l'air réveillé.
Il est temps de faire vos nuits avec jusqu'à moins 50% sur la literie grande largeur 160 cm et plus.
Un grand matelas pour un sommeil ultra réparateur.
Conforama, jusqu'au 3 août. Conditions sur conforama.fr.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, à mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invité du jour avec qui nous allons parler de chirurgie esthétique. Bonjour Jean-Paul Méningo.
Bonjour Anne.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous dirigez le service de chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique et maxillofaciale, je vais y arriver, du CHU Henri Mondor à Créteil. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « Le programme anti-âge du professeur Méningo », un livre que l'on peut télécharger en format Kindle sur Amazon. Et vous ne parlez pas que de chirurgie esthétique dans ce livre anti-âge. Alors, première question, en chirurgie, la quête de la jeunesse figure un petit peu derrière toutes les interventions, c'est ça un petit peu
Alors, il y a deux types d'interventions. Il y a des interventions dites de rajeunissement et d'autres dites d'embellissement. Donc, et sur les interventions d'embellissement, on a des interventions type rhinoplastie qui visent un embellissement, on va dire, assez concret, et d'autres qui sont des chirurgies, on va dire, d'amaigrissement, de réduction de poids, qui sont aujourd'hui les plus fréquentes.
D'accord. Donc, les plus fréquentes, c'est amaigrissement, ça veut dire quoi ? Liposuction ?
De loin, oui. C'est tout ce qui tourne autour de l'amaigrissement. Donc, l'intervention la plus pratiquée dans le monde, oui. Tout confondu, hein, y compris les interventions sur la vésicule biliaire, sur les appendicites, etc. Tout confondu, c'est la lipoaspiration.
De quelle partie du corps ? Du ventre ?
Bon, ça peut être la culotte de cheval, l'intérieur des cuisses, etc. Qui a été inventé par un Français, hein, par Ilouze, le docteur Ilouze. Donc,
il y a longtemps ?
Il y a longtemps, mais bon, c'était quand même une invention française, une des plus grandes inventions hein, dans le domaine de la chirurgie, grâce à tout simplement à des canules qu'il avait mises au point. Et donc, c'est vraiment ce qui est de plus fréquent. Puis après, il y a d'autres interventions d'amaigrissement, les plasties abdominales, les liftings, par exemple, des cuisses, au niveau des bras. Il y a toutes ces interventions aussi qui font suite aux amaigrissements massifs.
D'accord, où il faut récupérer un petit peu la peau,
la retondre. Voilà, les gens qui ont perdu 50 kilos suite à des bypass, etc.
Voilà,
donc, c'est qui sont des interventions de chirurgie digestive pour des gens qui ont vraiment des grosses obésités. Et puis, il y a la plus grande opération qui s'appelle le body lift, qui est vraiment une chirurgie post-amaigrissement qui concerne
donc
finalement l'ensemble du corps et qui se réalise
peau.
En une fois, qui sont spectaculaires.
D'accord. Et vous disiez ensuite, donc il y a l'amaigrissement en 1, en 2, c'est les chirurgies du visage.
Alors après, ça va être tout ce qui est rajeunissement. D'ailleurs, c'est ma spécialité, c'est tout ce qui est paupières, lifting, tout ce qui peut améliorer l'âge.
Damien Lascret.
Parce que justement, qu'est-ce qui se passe avec l'âge sur le visage comme modification ?
Alors, il y a deux types de modifications. Il peut y avoir une ptose des tissus. C'est une chute. Pardon, oui, vous avez raison de me rectifier. Et puis, donc, avec aussi de la graisse, donc au niveau du cou, hein, le fameux cou de dindon. Mais il va y avoir aussi une segmentation de la graisse à cause du fait qu'en vieillissant, on se contracte, les muscles se contractent, tous les muscles du corps. D'ailleurs, quand à un âge avancé, on a les genoux un peu fléchis, les épaules un petit peu remontées.
Donc c'est une évolution naturelle.
C'est une évolution naturelle. Les muscles ont tendance à se raccourcir avec l'âge. Et au niveau du visage, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui explique les sillons que l'on a autour de la bouche, les cernes que l'on peut avoir sous les yeux, les rides du lion. Ce sont des contractures.
Les rides du lion, voilà. C'est sur le front ?
Exactement.
J'ai remarqué que vous me regardiez comme anti-sèche pour décrire les différents.
C'est terrible, on se dit, il doit avoir tous les défauts. Quels sont est-ce que les défauts qui préoccupent les hommes et les femmes sont les mêmes ?
Non, pas tout à fait. C'est vrai que chez les femmes, donc, il y a beaucoup de préoccupations sur la chirurgie d'amaigrissement. Chez les hommes, on va avoir plus de préoccupations, par exemple, sur des rhinoplasties ou sur des paupières pour éviter des réflexions, des choses comme ça.
Et l'âge moyen des patients qui viennent vous voir, il évolue ?
Alors, ça dépend du type d'indication. Sur l'amaigrissement, on va être plutôt sur 40 ans, 40-50 ans. Évidemment, sur une chirurgie de rajeunissement, on va être plutôt sur la tranche des 50, 60, voire plus.
Damien Mascret.
On dit aussi que de plus en plus de jeunes font de la chirurgie esthétique. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est vrai. C'est vrai. Alors, par contre, ils vont faire des petits gestes, voire de la médecine esthétique, justement pour prévenir, pour ne pas arriver au stade de la chirurgie.
Alors, par exemple,
si on utilise du botox, de la toxine botulique à faible dose, on va pouvoir moduler cet effet de contracture des muscles dont je viens de parler et peut-être éviter certaines chirurgies. Les techniques de blanching, ces techniques où on utilise de l'acide hyaluronique pour combler les rides et on peut l'utiliser d'une certaine façon qui va permettre d'empêcher les rides de s'installer.
Alors, certains médecins, toujours chez les jeunes, certains médecins aux États-Unis se sont inquiétés des dégâts causés par la mode des selfies. Donc, des selfies, des photos retouchées. Ils appellent ça la dysmorphie Snapchat. Expliquez-nous. Donc, les jeunes veulent des yeux plus grands ou un nez vraiment petit ou un visage vraiment symétrique. Comment ça se passe ?
Voilà, ça, c'est un danger parce que ça amène à des demandes qui sont un petit peu irréalistes. On a quelquefois ça en consultation. Alors, je donne l'exemple classique. Une personne vient me voir pour un nez. Elle me présente des photos, elle me dit de ce qu'elle veut. Et je regarde les photos, évidemment. Ça m'intéresse parce que ça me permet de comprendre ce que la personne a dans la tête. Mais elle me montre 10 photos différentes, c'est-à-dire 10 nez différents. Et là, qu'est-ce que je fais ?
Ah, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs ?
Ben, je pointe du doigt le problème et je dis, mais regardez, j'explique parce que je sais analyser un nez. je dis, mais là, vous m'avez montré un nez qui est comme ça, et l'autre, il est vraiment différent, parce que la pointe, elle est... Donc, je ne peux pas vous faire deux choses complètement différentes.
Et on vous montre des photos retouchées, parfois ?
Alors oui, on me montre des photos, alors donc. Je leur dis que ça ne fait pas naturel, voilà, par exemple.
Damien Mesquerie.
Oui, est-ce qu'il y a finalement des choses que vous refusez, parce que vous vous dites, même si la personne ne s'en rend pas compte, que l'harmonie du visage risque d'être perturbée et que finalement, on aura peut-être, je ne sais pas, le nez ou la bouche qu'on voulait, mais qu'avec le reste du visage, ça n'ira pas. Avec votre expérience, peut-être que vous pouvez le deviner.
Alors, je vais nuancer ma réponse. En fait, la chirurgie esthétique, c'est une chirurgie du psychologique, hein, du psychisme. Le but, ce n'est pas d'avoir le nez comme ci, comme ça, c'est de faire en sorte que la personne se sent mieux. D'une certaine façon, on est des sortes de psychanalystes ou de psychiatres qui fonctionnons avec un bistouri. Donc, le but, c'est ça. Ce n'est pas d'avoir un nez comme ci, comme ça, c'est que la personne se sente mieux. Donc, si je sens que la demande n'est pas trop aberrante, parce qu'on ne va pas faire des oreilles de Spock ou des choses comme ça, mais que ça ne me paraît pas trop aberrant et que ça va apporter un bien-être, on va le faire. Mais ça peut être une demande finalement paradoxalement raisonnable et où derrière, il y a un profil psychique qui fait que nous, on sait, on a des critères, que la personne ne sera jamais satisfaite. D'accord. Et que ce n'est pas ça le traitement. Et à ce moment-là, il faut pouvoir la conduire vers un spécialiste, un psychologue, qui va pouvoir l'aider.
Et ça vous arrive souvent ?
Alors, pas très souvent, mais ça peut arriver. Et il faut qu'on soit préparé à ça, parce qu'encore une fois, le but, c'est que les gens se sentent bien dans leur peau.
Dans un instant, on continue de parler de chirurgie esthétique avec vous, professeur Méningo. Quelles sont les possibilités et les risques d'une opération ? Combien ça coûte ? Et quelles sont les questions à se poser avant de se lancer ? On en parle dans quelques minutes avec notre invité.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé, Bien-être sur Europe 1. Autour de la table aujourd'hui, le docteur Damien Mesquerie, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité, le professeur Jean-Paul Méningo, qui dirige le service de chirurgie plastique et reconstructrice de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Nous parlons ensemble des promesses et des limites de la chirurgie esthétique. Alors, pour ceux qui veulent sauter le pas, quelle est la démarche ? On va imaginer par exemple un patient qui n'aime pas son nez, qui est complexé. Il commence par aller voir qui ?
Il faut voir déjà un chirurgien qualifié. Donc si on prend le nez, donc ça peut être un chirurgien plasticien ou un chirurgien maxillofacial ou ORL qui a l'habitude de pratiquer cette chirurgie et qui est qualifié pour le faire.
Il y a des annuaires qui sont
disponibles. Il y a des annuaires. On peut se renseigner aussi auprès du Conseil de l'Ordre pour vérifier que la personne, que le médecin est bien qualifié.
C'est une bonne idée d'aller voir deux chirurgiens différents pour avoir deux avis ou un seul suffit ?
Moi, je crois que oui. Je pense que c'est bien de prendre deux avis.
Oui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain feeling quand on se fait opérer. Enfin, c'est vrai que ça paraît un petit peu émotionnel, mais quand même, on va confier son visage en plus, parfois. Ouais, ouais, donc, c'est important qu'on le sente bien, c'est
courant,
ça ?
Que le courant passe bien, je pense que c'est une... Oui, je pense qu'il vaut mieux consulter pas plus que deux, parce qu'après, ça devient... On a du mal à faire son choix, justement.
Alors, les actes de chirurgie esthétique sont irréversibles. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer ?
Ben si, déjà, enfin, il faut savoir si l'indication est bien posée, si elle n'est pas démesurée, si les méthodes d'anesthésie qui vont être utilisées sont adaptées, si on peut les minimiser.
Il y a des grosses différences dans les méthodes d'anesthésie ?
Ben oui, parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui actuellement peuvent être faites sans anesthésie générale. Mmh. Donc il faut les privilégier chaque fois que c'est possible. C'est ce qu'on appelle les anesthésies locales avec une sédation, c'est-à-dire un accompagnement. La personne est réveillée, mais il y a un accompagnement juste pour détendre.
D'accord.
Donc chaque fois que ça peut être fait, ça peut être très bien fait actuellement, il faut privilégier ces méthodes douces.
Et pour quel type d'opération c'est possible ?
Par exemple, tout ce qui concerne les paupières, la chirurgie des paupières, elle doit être en principe quasiment tout le temps, on le fait sous sédation.
Damien Mesquerie.
Oui, puisqu'on a évoqué l'anesthésie, évidemment c'est toujours un petit peu l'angoisse. Quels sont les risques qu'il y a quand même malgré tout avec la chirurgie esthétique ? Est-ce que d'ailleurs ce sont des risques liés à l'anesthésie ou des risques liés au type d'opération ?
Alors il y a les risques liés à l'anesthésie, mais comme ces interventions s'adressent normalement à des personnes qui sont en bonne santé, donc ces risques sont vraiment extrêmement faibles, surtout que l'anesthésie a beaucoup progressé. Et sur le plan de la chirurgie, les deux risques principaux, ce sont les hématomes et les infections, qui d'ailleurs sont souvent liés parce qu'un hématome peut amener à une infection. Ça a été très minimisé dernièrement sur les liftings. On a une nouvelle technique qui permet sans drain d'avoir réduit le risque à zéro.
Et les infections ou les effets indésirables sont fréquents ?
Alors, il peut y avoir c'est pas des complications, mais des suites qui font qu'on peut avoir une toute petite infection qui va être gérée avec des pansements très simplement. Les complications graves, non, elles sont évidemment exceptionnelles.
Alors, il y a aussi un phénomène de mode. Certaines modes peuvent passer avec les années. Comment vous gérez certaines demandes? Par exemple, je ne sais pas, au niveau de la poitrine, il y a eu des modes de petits seins, après il y avait des gros seins. Enfin,
tout à fait. Comment alors là, par exemple, sur le plan de la poitrine, on assiste, au contraire, à plutôt une réduction volumatrice de ce qui est demandé. Donc actuellement, il y a un mouvement inverse des patientes qui nous demandent, justement à l'occasion d'un changement de prothèse, de voir si on peut aller vers des volumes moins importants.
Damien Mascret.
Ça, c'est possible, effectivement, pour la chirurgie mammaire, mais est-ce que pour d'autres chirurgies, il y a quand même des possibilités de retour en arrière ou non, on fait quelque chose de différent?
Ça dépend de ce qui est prévu. Par exemple, nous, on fait de la féminisation de visage pour des transsexuels. Mmh. Là, le retour en arrière peut être compliqué.
Oui, parce que vous rabotez un petit peu les os de la mâchoire.
Plus que raboter. Alors, heureusement, c'est très encadré. Hein. Ce sont des chirurgies qui sont encadrées. Il y a un suivi psychiatrique pendant 2 ans qui précède l'intervention. Voilà. Ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Mais pour certaines interventions, le retour est presque impossible.
Damien.
Et là, pour le coup, quant aux touches à la mâchoire, la chirurgie maxillofaciale, c'est une spécialité. On ne la confie pas à simplement un chirurgien esthétique qui n'est pas familier de la chirurgie maxillofaciale.
Il faut être vraiment entraîné à ce type de chirurgie, oui, très clairement. Oui.
Vous faites des simulations. On peut avoir un effet réel de ce qu'on aura.
Alors, on fait
plusieurs
types de simulations. On fait des simulations tout simplement avec des logiciels qu'on appelle des logiciels de morphing. Mm-hmm. On fait des simulations tout simplement en imprimant. Donc on a des imprimantes 3D dans le service et on imprime les crânes, par exemple, pour simuler les interventions, les répéter. Et on peut faire aussi des simulations virtuelles. Donc on utilise de l'imagerie virtuelle et aussi la réalité augmentée.
Alors, un autre frein, au-delà du frein psychologique, un autre frein peut être le prix.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner les tarifs des interventions les plus fréquentes?
Alors c'est quand même très variable, parce que ça dépend donc si l'intervention est réalisée dans le service public, ça dépend de la réputation du chirurgien, ça dépend aussi
des honoraires.
À Paris, les honoraires sont un petit peu plus élevés que dans beaucoup de régions françaises. Donc là, je ne suis pas en train de vous répondre.
Non, mais la fourchette, allez.
Mais la fourchette, il y a des interventions qui peuvent tourner autour de 2-3 000 euros jusqu'à 10 000 euros. Ça dépend vraiment de ce qui est réalisé. Si c'est une intervention très complexe qui va durer beaucoup de temps, je ne sais pas, par exemple, type body lift, on est plutôt sur 10 000 euros. Mm-hmm. Alors après, il peut y avoir des prises en charge, on peut moduler tout cela. Mm-hmm. Et puis des interventions très simples qui peuvent être calculées à 1 000 euros, par exemple, l'intervention sous anesthésie locale pour des paupières supérieures. Mm-hmm. Là, on peut être sur des prix très faibles en chirurgie, à 1 000 euros.
D'accord. Et la liposuction qui est l'intervention la plus fréquente?
La lipoaspiration, là encore, ça dépend de ce qui va être fait, du nombre de zones, etc., du temps qui va être passé, mais ça peut aller de 3 000 euros à 6 000. Ça dépend aussi de la réputation du chirurgien.
Damien Mascret.
Est-ce qu'on considère que les interventions qui portent sur le visage sont plus complexes, plus délicates que les interventions qui portent sur le reste du corps?
Oui,
ou pas forcément.
On a tendance à le considérer. Moi, j'aimerais bien qu'on le considère parce que je suis de formation initiale maxillofaciale, mais en fait, c'est faux. Même une simple lipoaspiration, si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas bien attention, on peut faire des dégâts.
Et j'ai une question d'ailleurs.
Donc tout est difficile en fait.
Ouais. Justement, j'ai une question subsidiaire. Est-ce que vous pouvez être surpris, autrement dit, est-ce que dès le départ, vous savez avec certains patients ou certaines patientes que l'intervention va être délicate, je ne sais pas, un type de poids, un type de morphologie, ou est-ce que non, ça c'est imprévisible?
Non, quelquefois on le sait. Par exemple, on sait qu'il y a, par exemple, ça m'est arrivé récemment, j'ai une patiente qui était sous aspirine, les anesthésistes avaient pensé qu'on pouvait quand même l'opérer, mais il fallait que je l'opère sous aspirine, donc c'est un petit peu plus compliqué. On sait faire.
D'accord.
On va poursuivre cette discussion dans un instant avec vous, professeur Méningo. Nous allons évoquer les suites post-opératoires de la chirurgie esthétique et nous évoquerons aussi les techniques non-invasives qui sont de plus en plus nombreuses et elles permettent un coup de jeunesse sans bistouri avec des injections. A tout de suite.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être, et nous parlons aujourd'hui de chirurgie esthétique avec le docteur Damien Mascret et notre invité en studio, le professeur Jean-Paul Méningo, qui dirige le service de chirurgie plastique et reconstructrice du CHU Henri Mondor à Créteil. Alors, professeur, la plupart des opérations, je crois, se font en ambulatoire aujourd'hui en chirurgie esthétique.
De plus en plus, on essaye d'éviter les séjours hospitaliers. Alors, c'est pas toujours possible, mais beaucoup d'interventions maintenant sont faites en ambulatoire. Oui.
Ça veut dire qu'on rentre chez soi le soir, mais avec quelques pansements quand
alors,
même,
avec
j'imagine.
Quelques pansements, avec un plâtre éventuellement, si c'est une rhinoplastie. Pour les blépharoplasties, c'est systématique.
Et pendant combien de temps est-ce qu'on a les séquelles, les suites opératoires, les hématomes éventuellement, les fils
les suites vraiment visibles, ce qu'on appelle l'éviction sociale, c'est entre une et deux semaines, en fonction des interventions. Après, la cicatrisation complète, ce qu'on ressent, mais que les autres ne voient pas, c'est un an.
Damien Mascret.
Et est-ce que les résultats peuvent se modifier au cours du temps? Autrement dit, on peut être satisfait du résultat et puis voir quelques semaines, quelques mois plus tard, soit quelque chose réapparaître, soit une modification apparaître, ou non, c'est fixé.
Oui. Alors, en général, pour la plupart des interventions, tout va plutôt en s'améliorant. Il y a une petite exception à cela, c'est la rhinoplastie, où on peut avoir de bons résultats précoces et puis finalement un résultat qui se dégrade avec le temps.
Qui s'explique comment ?
Par des phénomènes de cicatrisation. Au début, l'œdème va masquer certaines imperfections et puis au fur et à mesure que l'œdème disparaît, les imperfections vont apparaître.
Est-ce qu'il faut prévoir, question très pratique, des jours de congé quand on fait une opération de chirurgie esthétique?
Ah oui.
Moins 15 jours, vous dites, au moins.
Ça dépend des opérations, mais entre une et deux semaines. Oui.
D'accord.
Damien Mascret.
Oui, alors quand on dit jour de congé, ça veut dire aussi qu'il faut se protéger probablement après. Je pense aux sportifs, évidemment. Est-ce que là, l'arrêt de sport doit être plus important?
Alors oui, il y a des sports qui sont à éviter. Donc en général, c'est la piscine, les baignades. Le jogging, bizarrement, parce qu'à cause des vibrations. Par contre, on peut assez rapidement reprendre, par exemple, la musculation. La musculation ne pose la plupart du temps pas de problème. Enfin, ça dépend du type d'opération. Si on a une plastie abdominale, bien sûr, on ne pourrait pas faire de musculation.
D'accord.
Alors, quand on a pris goût à la chirurgie esthétique, peut-être qu'on a envie d'en refaire, on trouve toujours qu'il y a un défaut en trop. Comment est-ce que vous mettez des limites à vos patients ?
Il faut effectivement arriver à ce que le patient arrive à une satisfaction sans être dans une surenchère permanente de chirurgie. Après, il n'est pas anormal qu'une personne ayant été satisfaite, par exemple d'une chirurgie mammaire, vienne consulter 2-3 ans après pour une lipoaspiration. Moi, j'y vois rien d'anormal, au contraire.
Et ça vous arrive de dire, non, là, c'est l'opération de trop, n'y allez pas ?
Oui, c'est rare, mais ça peut arriver.
Au bout de la combientième opération ?
Non, mais quand les personnes sont dans une espèce de course d'insatisfaction permanente et où on se rend compte que le problème n'est pas là, qu'il est ailleurs, qu'il est vraiment psychique, donc on ne va pas donner satisfaction, il faut freiner la personne.
Damien Mascret.
Et quand la personne veut qu'on réintervienne, alors restons sur la rhinoplastie, sur le nez par exemple, la personne veut qu'on réintervienne alors que vous, dans votre jugement, vous vous dites bah non, l'opération était bien, comment vous gérez ça ?
C'est une très bonne question. De toute façon, il faut un temps pour apprécier un résultat. Donc ça, effectivement, on a, surtout nous à l'hôpital, des personnes qui viennent affoler un mois après une opération faite par un autre chirurgien, je suis très insatisfait, il y a un problème, etc. On leur dit non mais attendez, il faut quand même un temps de cicatrisation et de toute façon, on ne réintervient pas avant 6 mois. Minimum.
Mais c'est possible.
C'est possible, mais il faut vraiment qu'on soit sûr qu'il y a un problème de cicatrisation, d'inflammation. Donc on évite de réintervenir sur un terrain inflammatoire.
Alors on le disait, on peut aussi rester jeune sans bistouri aujourd'hui avec des techniques d'injection. Oui. Comment évolue la demande ?
Alors il y a des techniques d'injection, il y a aussi des techniques tout simplement de laser, de radiofréquence, d'ultrasons, de plasma par exemple. Ça évolue énormément. Les dernières statistiques mondiales disent que ça a progressé de 10%. Alors que la chirurgie sur la même année, l'année dernière, a progressé d'un 0,5%. C'est assez peu pour une fois.
Damien ?
Et alors, par quel mécanisme s'agit ? Qu'est-ce que vous visez finalement en injectant ?
Alors, ça va être de traiter essentiellement des rides, mais ça va être aussi de reconstituer des volumes, par exemple au niveau des pommettes qui peuvent manquer, au niveau des tempes, en vieillissant, les tempes se creusent, ou des effets d'embellissement. On peut essayer de régénérer la peau. Donc, on a les techniques d'injection qui vont permettre de créer ce qu'on appelle une induction tissulaire, de créer du collagène. Le produit va partir en bout d'un mois, mais en fait, il va être remplacé par le collagène de la propre personne.
D'accord, ce n'est pas le produit lui-même qui agit, mais c'est
un inducteur tissulaire. Oui. Il agit sur des cellules de la peau qu'on appelle les fibroblastes.
Et ça, c'est une technique pour le grand public ?
Tout à fait, on l'utilise en routine.
En routine. Alors là encore, quels sont les tarifs quand on parle des injections ?
Alors, c'est souvent calculé en termes d'ampoule. Donc, en fonction des régions, l'ampoule va être le minimum que je sache. Ça va être, parce que les produits ont un coût, incompressible, ça va être dans les 250 euros, 200 ou 250. Et après, ça peut monter à 400, 500, ça dépend de ce qu'on fait. Par exemple, une rhinoplastie médicale va être un peu plus chère, forcément.
Alors, vous nous rappelez aussi dans le livre que vous venez de publier que le secret de la jeunesse, eh bien, ça réside aussi dans une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Il y a quelques secrets de jouvence que vous pouvez nous partager là, avant de nous séparer.
Bah, je vous donne peut-être le plus grand secret du livre, je déflore pour vous, c'est d'être positif, d'avoir
être
des pensées positives, d'éviter les pensées toxiques. En fait, avec trois types de sentiments, vous pouvez vraiment rajeunir, c'est-à-dire éviter toutes les pensées qui ne sont pas celles-là. C'est tout simplement l'admiration, l'amour et l'empathie.
C'est un beau programme. Et dans la vie quotidienne, il y a aussi le sommeil, l'alimentation, tout ça.
Alors,
ça compte,
il y a le sommeil, tout ça, c'est détaillé effectivement dans mon livre. Il y a le sommeil, l'alimentation, les compléments alimentaires, la gestion du stress, la méditation. Et même la médecine et la chirurgie esthétique peuvent améliorer l'état de santé. Ça, c'est une nouveauté.
En deux minutes, allez, quelques petits conseils pour l'été, pour les auditeurs.
Faire attention avec le soleil. Le soleil est vraiment un facteur de vieillissement majeur. Donc, bien utiliser les crèmes solaires qui sont des produits hautement technologiques. On n'imagine pas à quel point c'est technique. Un écran solaire.
Donc
le tabac,
l'indice 50 tout le temps.
Indice 50, et puis ce qu'on apprécie peu, c'est parce que le 50, c'est sur les UVB, mais en fait, ce qui nous vieillit le plus, ce sont les UVA. C'est assez mal renseigné, donc il faut prendre des produits de qualité. Le tabac, vous m'arrêtez quand vous voulez.
Allez-y.
L'idéal pour vieillir, le tabac. Ça.
Le tabac, c'est vraiment l'ennemi numéro un. Le surpoids et surtout le yo-yo. Le yo-yo dans le poids, ça c'est très très mauvais. Il faut se définir un objectif et s'y tenir, quoi.
D'accord.
Voilà quelques
boire
objectifs.
Suffisamment, dormir.
Bien s'hydrater, dormir. Alors il n'y a pas que la quantité de sommeil, la quantité compte, mais il y a la qualité. Et ça vaut le coup de passer au moins une demi-journée à réfléchir à la qualité de son sommeil et comment on peut l'améliorer.
Damien,
Une question peut-être qui est à la limite de la médecine, mais est-ce que vous pensez effectivement que l'attitude positive se reflète sur le visage? Quand vous voyez un visage, finalement, le caractère, on dit, peut être lu dans le visage. Est-ce que c'est vrai?
Moi, j'en suis convaincu. Je crois que c'est Balzac qui disait qu'à partir de 40 ans, on est responsable de son visage.
C'est beau. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. Merci, professeur Méningo, chef du service de chirurgie plastique et reconstructrice de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Merci d'être venu en studio nous apporter votre expertise. On rappelle le titre de votre dernier livre, donc disponible en format Kindle sur Amazon. Ça s'appelle « Le programme anti-âge du professeur Méningo. Immunité, énergie, longévité, apparence, les techniques scientifiquement validées ». Merci à vous.
Merci à vous.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec les conseils d'une experte de la méditation pour apprendre à ralentir et à mieux savourer ses vacances cet été. Et vous retrouverez également la chronique sexo de Damien Mascret. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h et nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours vers 15h40, nous parlons de notre mental et des habitudes personnelles pour améliorer le bien-être au quotidien. Tous les jours, un expert nous donne ses pistes, ses secrets, ses astuces pour nous améliorer notre quotidien. Aujourd'hui, c'est Diane Taïeb qui est avec nous. Bonjour Diane.
Bonjour.
Vous êtes formatrice et enseignante en méditation. Aujourd'hui, c'est vous qui allez nous aider à améliorer nos habitudes quotidiennes. Si on vous demande trois idées pour apprendre à ralentir, à mieux profiter de l'instant présent cet été, vous nous dites quoi, Diane?
Déjà, la première chose que je dirais, c'est se laisser de l'espace, se laisser du vide. Ne pas vouloir tout optimiser, ne pas vouloir passer d'action en action, mais vraiment se laisser du temps. Ça, je pense que ce serait mon premier conseil.
Donc les plannings, on oublie un peu cet été.
Oui, on essaye de se laisser de l'espace pour en fait vraiment avoir des moments... En fait, en vacances, on a tendance à caler le même modèle que notre modèle habituel de travail, c'est-à-dire à vouloir tout optimiser, à vouloir tout remplir à tout prix. Et du coup, on se retrouve à passer d'une activité à une autre, mais sans vraiment les vivre, sans vraiment les goûter. Et donc, c'est hyper important pour se sentir vivant, pour se laisser de l'espace, pour respirer, de se laisser des moments de calme, de solitude, de liberté, d'espace, de contemplation.
Et d'imprévu. Et le docteur Damien Mascret a une question là-dessus pour vous.
Oui, alors moi j'ai tendance à pas effectivement programmer pendant l'été. Je vais me programmer une activité dans la journée avec à telle heure, je vais faire, je sais pas, par exemple un tennis ou etc. Et pour le reste, il n'y a pas d'horaire. Est-ce que c'est bon de ralentir en n'ayant pas d'horaire ou est-ce que ça peut poser des problèmes?
Bah non, c'est plutôt bon de se laisser des moments où il n'y a pas d'horaire, parce que du coup, ça permet de goûter un autre espace-temps, qui n'est pas le temps où je me stresse parce qu'il faut que je sois à telle heure, à tel endroit. Donc, ça fait du bien, ça calme le corps, ça sort des habitudes où on doit répondre à des résultats. Donc, c'est plutôt bon. Après, c'est plutôt comment je me cale avec ma famille, mes amis, pour que ceci fonctionne en bonne cohésion. Mais c'est plutôt bon, en tout cas, pour le corps, pour la relaxation, pour l'espace mental, pour le créer vraiment un sentiment de liberté et de présence.
Donc, premier conseil pour ralentir, se laisser des temps de vide, en fait. Le deuxième conseil, Diane Taïeb.
Alors, ce serait se relier à ses sens. Mmh. Passer du faire au ressentir. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart du temps dans l'année, on passe plutôt notre vie dans notre tête, dans notre cerveau, à réfléchir, analyser, comparer, anticiper, juger. Et là, c'est de laisser un peu d'espace et de vie à nos sens pour goûter, ressentir, sentir, écouter les cigales, marcher pieds nus sur la terre, se laisser toucher par le soleil sur la peau. C'est vraiment contacter ses sens, en fait. Sentir le balancement de notre corps quand on marche, écouter le vent qui souffle. L'été, il est particulièrement propice à ça. Sauf que parfois, on peut passer à côté, en fait. On peut oublier qu'il y a tellement de choses qu'on peut goûter avec nos sens parce qu'on est bloqué dans notre esprit. Donc, l'invitation, ce serait vraiment comme un enfant curieux qui redécouvre ses sens et s'émerveille de ressentir.
Damien Mascret.
Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut parfois consciemment, volontairement, faire l'effort de s'interroger sur ce qu'on sent, ce qu'on entend, ce qu'on voit ?
Ouais, très juste. Alors, je dirais pas forcément s'interroger. Je dirais au contraire plonger dans ses ressentis. C'est ça tout l'objet de la méditation. C'est-à-dire que on s'assoit et on ressent. On ressent son souffle, on ressent son corps, on ressent sa peau. Et puis, dès que la petite voix vient dans l'esprit interroger, questionner, analyser, on dit « Ah non, j'ai pas besoin de penser maintenant. Je laisse aller la pensée et je replonge dans mon corps. » Donc, plutôt que s'interroger, ce serait vraiment plonger dans le ressenti.
Voilà, donc premier conseil du vide, deuxième conseil des sens, du ressenti, et le troisième ?
Eh bien, ne pas prévoir, ne pas anticiper, se laisser surprendre, calmer les attentes qu'on aurait pu projeter. Et puis, par exemple, si on est devant un beau paysage, souvent ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir notre esprit qui va nous dire « qu'est-ce qui se passe après ?» Et du coup, je vais complètement passer à côté de ce paysage, mais même pas le voir, parce que je vais être plongée sur l'après. Eh bien là, une invitation serait de se dire, en fait, l'après, on verra plus tard. Et donc là, je suis juste avec le paysage. Et ça veut dire, du coup, accepter l'imprévu, accepter que tout n'est pas organisé.
Et on évite de se projeter dans la rentrée, en fait, aussi.
Ah, très, très bonne, très bonne remarque. Ou de se projeter dans les réseaux sociaux aussi, c'est bête, mais qui vont nous faire penser à la suite, qui vont nous projeter dans des idées et dans des projections.
Damien Mascret.
Oui, alors c'est vrai que c'est très difficile souvent de rester dans l'instant. On a l'impression qu'on vit dans l'instant et c'est le cas. Mais en même temps, vous l'avez dit, on est toujours en train de se projeter dans la suite de ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'il y a des trucs ou des exercices à faire pour essayer de rester dans l'instant ?
Ouais, alors c'est vraiment tout l'enjeu de la méditation de pleine conscience. En fait, la méditation de pleine conscience, c'est s'entraîner à rester avec l'instant présent, à rester au contact. Et comme je disais, c'est un entraînement, c'est-à-dire que ça prend du temps. C'est tous les matins, s'asseoir 10 minutes et puis choisir un objet d'attention. Ça peut être par exemple le souffle ou ça peut être par exemple les sons. Et rester vraiment au contact de l'instant, des ressentis à chaque seconde qui se déploie. Et dès que mon esprit part dans les projections et que je suis partie, pouf, j'en prends conscience et je ramène mon esprit. C'est comme si je musclais en fait mon attention à rester dans le présent.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est un vrai entraînement.
Merci beaucoup, Diane Taïeb. Bon, on rappelle vos conseils, du temps de vide, du ressenti, et on évite de se projeter dans le futur, dans la rentrée. Un grand merci. On rappelle que vous êtes formatrice et enseignante en méditation et les auditeurs peuvent notamment vous retrouver sur l'application Mind.
Europe 1, Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être jusqu'à 16h. Et c'est l'heure de la chronique sexo avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et aujourd'hui, Damien, vous vouliez nous parler des orgasmes et notamment des orgasmes étranges.
Oui, des orgasmes étranges, parce que le point de départ d'un orgasme est parfois surprenant. Alors, au-delà des anecdotes ou des témoignages, il y a beaucoup de publications scientifiques qui montrent ça. Et récemment, notamment, on a des chercheurs néerlandais qui ont eu la surprise de voir en consultation une femme de 55 ans qui consultait parce qu'elle avait des orgasmes inopinés qui démarraient dans son pied gauche. Alors ça remontait, évidemment, ça remontait par le mollet, ça allait jusqu'au vagin, ça se terminait dans sa tête, évidemment, avec la sensation orgasmique, et ça durait comme ça pendant 5-6 secondes. Alors, le problème, c'est qu'elle ne pouvait non seulement rien faire pour l'empêcher, mais en plus, c'est pas elle qui déclenchait ça parce qu'elle avait des pensées érotiques. Ça se déclenchait comme ça, 5 ou 6 fois par jour, sans prévenir. Donc, c'était particulièrement invalidant. Alors, on a fait des examens et on a réussi à trouver un traitement. Enfin, le docteur Waldinger, hein, qui est un neuropsychiatre très connu en sexologie de l'université d'Utrecht, eh bien, il a identifié la zone plantaire, hein, de la voûte plantaire, effectivement, dont la pression pouvait effectivement déclencher l'orgasme. Alors, bien sûr, c'était un petit peu embarrassant pour elle, mais la solution, c'est surtout qu'ensuite, on est remonté jusqu'à la racine nerveuse et il y a un ganglion rachidien hein, au niveau de deuxième vertèbre sacrée qui a été neutralisé et ça lui a supprimé ses orgasmes inopinés. Alors, le docteur Waldinger fait une remarque qui est intéressante, c'est qu'il rappelle que, comme par hasard, le nerf qui provient de la plante des pieds, eh bien, il rentre dans la colonne vertébrale au même endroit que le nerf qui vient du clitoris. Donc, vous voyez qu'il y a
des liens. Ceci explique cela.
Ça peut expliquer la fameuse expression « prendre son pied », qui est bien nommée d'ailleurs, parce que prendre son pied, c'était quand même la mesure qu'avaient les pirates pour répartir équitablement le trésor. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une notion d'équitable là-dedans.
Enfin, toute cette histoire, ça nous montre aussi que l'orgasme, c'est avant tout dans le cerveau.
Bah exactement. Hein. Quel que soit le point de départ des stimulations, tout se termine dans le cerveau. C'est là que se produit l'orgasme. Il y a des médecins canadiens qui ont étudié notamment une douzaine de femmes comme ça qui avaient leur crise d'épilepsie. Hein. Donc là, on n'était que dans le cerveau, mais qui commençaient très souvent justement par des sensations érotiques, des sensations agréables. C'était des femmes dont ça avait commencé entre 12 ans et 57 ans. Vous voyez, ça peut commencer aussi très tard. Et ces sensations, évidemment, se propageaient à tous les organes génitaux avant que se déclenche la crise d'épilepsie. Donc, on voit bien que là, on est complètement dans le cerveau.
Et l'orgasme par la pensée, c'est un mythe ? Ça existe vraiment ? Pas du tout.
Ça existe vraiment. Alors déjà, en 1953, la grande enquête américaine sur la sexualité féminine de Kinsey avait remarqué que 2% des femmes disaient être capables d'avoir des orgasmes par la pensée sans aucune stimulation physique. Alors bien sûr, certains n'ont jamais cru à ça, hein, parce que comme toujours, on remet en cause le témoignage des premières concernées. Mais bien sûr, depuis, on a des techniques qui ont permis d'en savoir plus et qui ont permis surtout de confirmer qu'il se passait bien quelque chose dans le cerveau. On a déjà, en 1992, on avait déjà Beverly Whipple qui avait montré, là aussi, chez une dizaine de femmes, en laboratoire, qu'effectivement, elles avaient toutes les manifestations orgasmiques, non seulement le plaisir exprimé, mais aussi la dilatation des pupilles, l'augmentation de la pression artérielle, l'augmentation du pouls, les contractions du périnée, tout ça, elles avaient ça. Donc, ça montrait déjà que ces femmes, effectivement, sans aucune stimulation, pouvaient déclencher l'orgasme. Et puis en 2013, on a des chercheurs américains qui, cette fois-ci, tout simplement, ont mis dans un appareil d'IRM fonctionnel des femmes qui avaient ou qui disaient être capables d'avoir des orgasmes par la pensée. Et c'est ce qui s'est passé. On a bien vu, effectivement, hein, vous avez peut-être vu ces vidéos sur Internet d'IRM où on voit tout le cerveau s'embraser, qui s'allume, voilà, tout le cerveau s'allume parce que c'est ce qui se passe effectivement à ce moment-là, au moment de l'orgasme. Donc on voit bien que effectivement, par la pensée, on peut effectivement déclencher un orgasme. Donc ce qu'avaient déjà dit les femmes en 1953 a été confirmé 60 ans plus tard pour les plus sceptiques par l'IRM. Ça montre bien, une fois de plus, que la science, parfois, peut rejoindre les pensées les plus érotiques et les plus surprenantes.
Merci Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours avec vous de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Lundi, notre dossier du jour sera consacré, j'ai oublié, on vous en parlera lundi. Merci à vous Damien Mascret. On vous laisse en bonne compagnie, on vous laisse en compagnie de Philippe Googler. On va s'évader.